Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission La Prédication protestante. Je suis Florence Vanquali, pasteur à l'Église évangélique libre de Toulouse. J'aimerais aborder aujourd'hui avec vous la question de notre témoignage dans le monde. Nous ressentons souvent un décalage entre notre foi et le monde qui nous entoure. Ça peut être parce qu'on ne comprend pas les orientations de la société, parce qu'on entend la remarque d'un collègue désobligeante, ou parce qu'on a une discussion à la fin d'un repas avec des amis qui ne comprennent pas notre foi, qui se posent beaucoup de questions. À chaque fois, ces orientations, ces remarques, ces discussions peuvent être plus ou moins contraires à ce que nous croyons, plus ou moins désobligeantes, plus ou moins ouvertes, personnelles ou au contraire théoriques. Alors à ce sujet, j'aimerais me pencher avec vous sur un épisode de la vie du prophète Élie dans le premier livre des rois dans l'Ancien Testament. Mais d'abord, il faut dire quelques mots sur le contexte. Nous sommes aux environs de 900 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël s'est divisé et ses rois, surtout au nord, se sont éloignés de Dieu. Nous sommes au temps du roi Akab. Akab, très influencé par son épouse païenne, Jézabel. À ce moment-là, survient le prophète Élie, un prophète plein de passion et de feu qui entre en conflit ouvert avec le roi pour l'interpeller, pour lui rappeler qui est le vrai Dieu. Une sécheresse arrive et c'est la famine. Élie doit se cacher et survivre. Alors Dieu le conduit chez une veuve à Sarepta, dans une ville étrangère, une ville phénicienne, païenne. Cette veuve, qui doit prendre soin du prophète Élie, est elle-même dans une situation extrême. Quand Élie arrive, elle est en train de vider son dernier pot d'huile et de farine et elle s'apprête à mourir de faim avec son fils. Élie lui promet la protection de Dieu si elle accepte de le prendre chez elle et elle ose, elle le fait. Alors le miracle se réalise, la promesse de Dieu s'accomplit. Le pot d'huile ne tarit pas, le pot de farine ne désemplit pas. Et je vous invite à lire ce qui arrive plus tard chez cette même veuve, donc dans le premier livre des rois au chapitre 17, et je lirai les versets 17 à 24. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli le prophète Élie chez elle, ce fils donc tomba malade. Il fut même si malade qu'il finit par mourir. Sa mère dit à Élie, « Prophète, pourquoi m'as-tu fait cela? Es-tu venu pour rappeler mes fautes et provoquer la mort de mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Elle le tenait dans ses bras, alors il le prit, il le porta à l'étage supérieur dans la chambre où il logeait, et il le coucha sur son lit. Puis il pria le Seigneur en ces termes. « Seigneur mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Veux-tu vraiment la rendre malheureuse en faisant mourir son fils ?» Élie s'étendit trois fois sur l'enfant, en adressant au Seigneur cette prière. « Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur exauça la prière d'Élie, il rendit la vie à l'enfant, qui se remit à respirer. Élie prit l'enfant, le ramena à l'étage inférieur, et il le rendit à sa mère en disant, « Regarde, ton fils est vivant !» La femme lui déclara, « Cette fois-ci, je reconnais que tu es un prophète et que tu parles vraiment de la part du Seigneur. » Jusqu'ici notre lecture. Élie, le prophète, est prophète de Dieu dans un monde incrédule. En Israël, à cette époque, on se livre à des cultes païens. On élève des poteaux en l'honneur de divinités étrangères. On sacrifie à des statues. Seule une poignée de juifs continue de croire en Dieu et de le respecter. En dehors d'Israël, Dieu n'est pas connu. Nous sommes alors dans une situation d'errance spirituelle, désertique, sèche, qui ne vaut pas mieux que notre époque. Dans ce contexte, Élie se dresse droit comme un témoin, témoin du vrai Dieu, du Dieu vivant, source de vie, au cœur d'un monde incrédule. Mais dans ce texte, c'est moins Élie qui nous interpelle en premier que cette femme. Cette femme étrangère nous interpelle par son mélange de foi et de doute. Depuis l'arrivée d'Élie, depuis qu'elle le connaît, elle est au bénéfice des miracles de Dieu. Quoi ? en période de famine et de pénurie, ses ressources se sont renouvelées miraculeusement. Elle, qui s'était préparée à mourir de faim avec son fils, peut vivre et même accueillir un invité. Si ce miracle est arrivé, c'est parce qu'elle avait pris le risque de suivre la procédure que proposait Élie, qu'elle avait tout mis en jeu pour pouvoir faire ce qu'il lui disait de faire. Cette femme a eu l'audace de croire. Elle a cru en la promesse de Dieu et cette promesse s'est accomplie. Alors cette femme a toutes les raisons pour faire confiance à Dieu. Elle lui a fait confiance une première fois. Dieu a répondu d'une manière extraordinaire. Oui, mais voilà. Maintenant, c'est son fils qui tombe malade, son fils unique, ce qu'elle a de plus précieux. Et là, elle se retourne contre le prophète. Elle l'accuse. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu veux mon malheur? Tu veux me condamner? Tout est remis en cause. Les miracles, les croyances, tout est remis en cause parce que son fils est en danger. Cette femme n'agit pas comme on l'attendrait, en bonne croyante, pleine de foi en ce Dieu qu'elle ne connaissait pas mais qui lui a donné l'abondance. Mais cette veuve, c'est pas un personnage de conte de fées, lisse et prévisible. C'est un être humain qui réagit, qui doute, alors même qu'elle a des signes forts de la présence et de l'action de Dieu dans sa vie. Une femme qui se débat quand la souffrance est insurmontable, qui se révolte devant l'injustice de sa vie. Cette femme nous ressemble. Nous pouvons avoir beaucoup de questions, alors même que nous avons vu beaucoup de signes de la présence de Dieu. Pourtant, en temps de crise, nous aussi nous pouvons être submergés par le questionnement et le doute. Et Élie entend, il entend, derrière la révolte, non pas le doute qui refuse de faire confiance à Dieu, mais le cri de souffrance, de détresse de cette mère qui perd son fils. Et loin de lui répondre à un discours moralisateur ou un verset prêt à l'emploi, loin de lui donner une explication toute faite ou une recette, il l'écoute. Il l'écoute. Face aux doutes de la foi naissante, face aux questions parfois agressives que nous pouvons rencontrer en dehors de l'Église, mais aussi dans l'Église, lorsque l'un de nos proches dans l'Église est en souffrance, lorsque nous entendons « Mais il est où ton Dieu ?» dans ma maladie, dans cette guerre, dans ce malheur. Quelle est notre attitude? Est-ce que nous sautons sur la première réponse venue, facile, polyvalente? Ou est-ce que, comme Élie, nous nous mettons à l'écoute de la soif, de la détresse, du besoin de l'autre, qui parfois sont sous-jacents, mais qui sont bien présents? Élie est un témoin qui écoute, mais il va plus loin, beaucoup plus loin que l'écoute. Il se met au service de cette veuve, avec ce qu'il a, avec ce qu'il est. Malgré l'agressivité, l'incrédulité de cette femme désespérée, il aurait pu partir, Non, il se met à son service. Il prend son fils, le fils de cette femme, il va dans une chambre à l'écart et dans cette chambre, il prie. Il en appelle à Dieu, il argumente. « Vraiment, tu vas faire du mal à cette femme alors qu'elle ne m'a fait que du bien ?» Il plaide. « Mais c'est une veuve, elle perdrait tout !» Il demande grâce. « Je t'en supplie !» Rends la vie à cet enfant. Élie prie deux fois, au début et à la fin, et il prie tout au long de ce temps, parce que sans la prière, rien n'est possible. Alors ça ne veut pas dire que la prière est magique, qu'il faut dire les bonnes formules au bon moment, et puis deux fois pour être sûr, ou trois fois, non. Mais la prière est essentielle parce qu'elle nous ouvre à l'intervention de Dieu. C'est comme si elle dégageait l'espace où Dieu va agir. Prier, c'est inviter Dieu dans notre vie, c'est lui faire l'espace, lui laisser cet espace pour qu'il puisse intervenir. Entre les deux grandes prières de ce moment et avec sa prière, Élie a un comportement étrange. Il se couche trois fois sur l'enfant. C'est un geste mystérieux, difficile à interpréter, mais je crois que c'est un geste de solidarité. J'y vois l'implication d'Élie, son implication personnelle au cœur de sa prière. Élie ne reste pas détaché de la situation, mais il s'y colle, il s'engage, il joint un petit geste à une grande prière. Comme pour la prière, ce n'est pas la quantité ou l'efficacité du geste qui compte, mais c'est l'implication d'Élie qui ne prie pas de loin. Élie prend à cœur, et on pourrait même dire à corps, la détresse de cette femme pour la confier à Dieu. Alors c'est vrai, des miracles aussi spectaculaires, nous n'en voyons pas tous les jours. Mais Dieu agit tous les jours. Il intervient tous les jours. Il est vivant et puissant et attentif tous les jours. Comment l'invitons-nous dans notre réalité? Quelle est la place que nous lui laissons? Lorsque nous prions, pour nous, hein, pour nos propres besoins ou pour ceux des autres, est-ce que nous prions du bout des lèvres, sans grande conviction? Ou est-ce que nous prions de tout notre cœur, avec la conviction que Dieu peut agir, même si ça nous dépasse? Pour Élie, c'était fou de demander la résurrection d'un enfant, aussi fou que pour nous, hein. Mais c'était aussi fou que, je sais pas, de prier pour l'ouverture de la Corée du Nord, pour la paix au milieu des conflits, pour des conversions massives dans un pays. Élie a eu une prière folle. Il ne s'agit pas de donner des ordres à Dieu, mais de l'inviter dans notre réalité pour qu'il vienne nous transformer, nous faire vivre et de ne mettre aucune barrière, aucun obstacle à ce que Dieu peut faire. Ce jour-là, Dieu a agi d'une manière spectaculaire. Il a fait revivre l'enfant. Non seulement l'enfant ressuscite, mais sa mère aussi reçoit. Elle reçoit de quoi vivre avec Dieu. Elle voit à nouveau qu'Élie est un vrai prophète. Elle voit que la parole de Dieu est vraie, que Dieu accomplit ses promesses, qu'il est fiable, que Dieu est le vrai Dieu. Élie, assidu dans la prière malgré les doutes de cette mère, a tenu bon. Il a tenu bon pour témoigner de Dieu, du Dieu vivant, alors même qu'il n'avait pas de garantie sur le succès de sa prière. Alors pour nous, ça peut paraître présomptueux de parler de Dieu aux autres, de proclamer que ce Dieu en qui nous croyons est le vrai Dieu, le seul et l'unique, celui qui fait vivre et revivre. Et c'est pourquoi c'est tellement important de nous rappeler qui est ce Dieu dont nous parlons. Dieu, le Dieu que nous révèle Jésus-Christ, c'est le Dieu qui nous fait vivre, qui guérit les malades, et ça c'est moins rare qu'on le pense. Un Dieu qui renouvelle les cœurs, qui entrelace constamment son action dans le tissu du quotidien. C'est le Dieu de notre souffle et du printemps, du soleil, de la pluie, de l'enfant qui naît, de l'artiste qui nous percute, de l'athlète au sommet de ses capacités, du médecin qui sauve une personne. C'est le Dieu créateur qui n'en finit pas de recréer, de renouveler, de raviver. C'est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui s'est collé à nous dans notre humanité pour nous faire revivre, qui est devenu un homme en chair et en os pour nous offrir la vie. Et Jésus-Christ, collé à nous, ressuscite. Il triomphe du mal et de la mort. Il promet la vie à tous ceux qui croient. Jésus-Christ vivant, aujourd'hui, pour toujours, priant pour nous, avec nous, collé encore à nous par son esprit, pour nous offrir la vie du Créateur. Dans le monde qui nous entoure, nous ne pouvons pas grand-chose, et nous pouvons beaucoup. Nous pouvons être là, attentifs, à l'écoute de notre entourage, sans discours moralisateur, sans fausses promesses, simplement là, à l'écoute. Nous pouvons servir, même si nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous pouvons toujours prier. Nous devons d'abord prier dans une prière qui nous engage dans notre cœur et dans nos actes. Nous pouvons être des témoins, simplement en silence, des poteaux indicateurs du Dieu vivant, parce que le Dieu qui nous a sauvés sauve encore aujourd'hui et que le Dieu qui nous fait vivre veut relever ce qui vacille autour de nous. Prions. Seigneur, merci pour cet exemple d'Élie. Viens renouveler en nous cette conviction que tu es le Dieu vivant et qui fait vivre. Viens nous animer de la même passion qu'avait Élie, de la même confiance en toi. Et quels que soient les vents qui sont autour de nous, qui peuvent parfois nous impressionner ou nous faire douter, garde-nous enracinés dans la foi. Et nous te prions, Seigneur, que cette foi ne soit pas juste pour nous, mais qu'elle rayonne par notre écoute, par notre prière, par notre service, par nos paroles aussi, à tous ceux qui nous entourent. Amen.
Thank you.